toutes et tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver deux fois le mois pour vous entretenir de ces choses et d'autres qui font la vie tout court et la vie de la musique. On a beaucoup parlé cette dernière année de l'essentialité de la chose artistique. Et bien entendu, je souscris à 101% à cette affirmation. Comme je souscris également à l'essentialité de toute vie et à la précieuse futilité de beaucoup de choses. Je crois le futile tout aussi précieux que le grave, que l'on ne se donne qu'une seule et unique unité de mesure ou de valeur, et nous vivrons pris dans un étau. Alors je souhaite que mes camarades artistes retrouvent également le sens du futile, du dérisoire, du plaisant, du léger, parce que cela aussi, c'est leur gloire. L'essentiel, ce qui procède directement de l'essence d'une chose, c'est la vie elle-même, et les arts en sont une part. Retrouver sa juste part et se retrouver peut-être enfin l'esprit un peu plus léger. Avez-vous remarqué, notre radio a 30 ans, 30 ans, âge charnière, à partir duquel on peut penser peut-être ne plus se contenter de la brillante vitrine des choses, et penser à pousser un peu plus en avant vers l'intérieur, vers les zones moins éclairées, moins tapageuses de la vie, où évoluent des gens qui ont tout autant, sinon plus à nous raconter que les femmes et hommes sandwich de la célébrité. Ça n'est pas par refus ou par hostilité, je me tiens éloigné de certaines formes de musique, de certaines façons de faire de la musique. C'est simplement que certaines choses me touchent, trouvent leur chemin jusqu'à moi, et d'autres pas. Partant de là, je n'ai aucune prétention à être parfait, à détenir quelque vérité que ce soit. Cela reste la vue d'un seul, c'est parcellaire donc. C'est en étant mis en balance avec d'autres autour de soi que l'on devient juste, que l'on trouve sa place. Toutes celles et ceux qui réalisent des émissions sur Radio Grand Ciel vous disent leur petit bout de vérité. Et qui sait, peut-être que tout cela mis bout à bout fait une vérité plausible, utile peut-être, et je l'espère, agréable de temps en temps pour vous. Bon, ceci dit, c'est pas tout ça, il y a émission. L'or des curieux, émission écrite et présentée par Robert Giroux. À la prise de son, et je serais tenté de dire à la chirurgie esthétique, le docteur Simon Martin, qui reprend pas à pas toutes mes bourdes, tous mes bafouillages, et vous rend tout cela présentable. What's up, doc? Au programme aujourd'hui, accordéon, et en soliste, s'il vous plaît, de la haute voltige, sans filet, par un jeune homme qui est d'ores et déjà l'un des grands noms de l'instrument. Nous voyons tout cela dans un instant. J'espère vous trouver au mieux de votre forme et paré à vous émouvoir. Allez, mettons-nous en route, et notre sujet du jour nous fait sans plus attendre un petit brin de conduite. Maestro. Thank you. Il est aujourd'hui tacitement admis que l'accordéon n'a plus à plaider pour sa cause en permanence, avant que de pouvoir faire entrer en action sa splendide soufflerie et nous donner à entendre sa musique. Musique immanquablement singulière, quel que soit le style, ou plutôt le type d'écriture qu'il nous donnera à comprendre. L'accordéon sera toujours une expédition à part, ne ressemblant à aucune autre, ni par ses moyens, ni par ce qu'il exigera de nous, et ni par sa destination. La sonorité, la première note entendue du ventre d'un accordéon, annoncera toujours pour moi un voyage. Du moins ce qui est voyage à mon sens, à savoir la promesse d'une évolution du sensible, évolution par déplacement. Ceci n'induisant pas forcément qu'il y ait le moindre pas, le moindre mouvement visible à accomplir. Je parle donc de voyage intérieur, par l'âme, par l'esprit. Je n'en pratique pas d'autres. Mon sac à dos est plein de notes de musique et de très peu d'autres choses. Le ou les moments où je vais vous parler et vous offrir à écouter de l'accordéon sont des moments bien particuliers pour moi, puisqu'à ce moment, le cadeau est double. Il est fait alors de la joie d'être baigné de cette musique et la joie supplémentaire de penser que peut-être à cet instant, vous découvrirez un musicien nouveau pour vous et que vous l'aimerez. Pensez peut-être donc que je saurais vous convertir à cet instrument, vous en donner une clé. Et c'est précisément ce que j'entendais faire aujourd'hui. La sortie d'un CD intitulé « Made in Black » m'en donne l'occasion. « Made in Black », soit « taillé dans le noir », »,« fait dans le noir ». Comme le ciel de nuit, le noir c'est aussi l'absolu, l'en-deçà de la couleur. Une plénitude dans laquelle le silence ou bien la musique deviennent tranchants, où leur effet sera immédiat et imprimera durablement en vous et moi. Cette solennité invoquée est la même qui devrait précéder et présider à toute écoute de la musique. Le peintre William Turner, lorsqu'il conviait chez lui quiconque à venir voir ses toiles, faisait alors passer le ou les convives par un long couloir noir, fermé aux deux extrémités par deux rideaux noirs. Et il restait là un bon moment, le temps de se laver les yeux, d'oublier la perception qui est la nôtre des couleurs dans la vie de tous les jours, le temps donc de retrouver des valeurs sensibles, de changer un organe en pure sensibilité, « made in black » donc. Et ce CD est l'œuvre de Ludovic Beyer. Et Ludovic Beyer est un accordéoniste tout imprégné de jazz, même s'il est aisé de percevoir en lui une base extrêmement large, une rigueur qu'il rapproche des classiques, un sens de l'aventure et un goût pour l'exploration qu'il rapproche des contemporains, un sens de l'universalité en musique qui serait lui plutôt le fait des musiciens traditionnels. Sa palette est infiniment riche, riche d'une sensibilité à vif et ouverte en grand, riche d'une vie. Je vous propose à présent d'écouter un premier extrait de cette œuvre, Danse et magnifique, conduite en solo. La pièce s'intitule « Joyful », emplie de joie, Ludovic Beyer. Thank you. l'accordéon et le jazz. Cette union, pour rare qu'elle soit, ne doit pas nous surprendre. Elle est ancienne et a su se préserver, malgré souvent un manque d'écho certain. Les Français Gus Wieser et Joe Privat ont enregistré de superbes choses, et il est plus que dommage que l'on ait retenu d'eux que la bouillie commerciale que les tristes années 60 les ont forcés à graver. C'était cela ou mourir, cela ou se taire, ou disparaître. Aux États-Unis, c'est le nom d'Art Van Damme qui me vient à l'esprit en premier. Van Damme qui, par un jazz certes facile, mais plein d'élégance, de swing et de raffinement, saura faire que l'accordéon trouve sa place dans un cadre plus propice à l'écoute. C'est bien entendu Richard Galliano qui fera faire à l'instrument un pas de géant en France, en l'imposant à nouveau dans la chanson, auprès du titan Nougaro, dans le jazz actuel et bien entendu dans le nouveau tango cher à Astor Piazzolla. Galliano est sans aucun doute la pierre angulaire autour de laquelle vient s'articuler l'avènement de toute une nouvelle portée d'accordéonistes et une nouvelle diversité de styles et d'interprétations. La venue de Richard Galliano a donc été infiniment libératrice. Elle a donné du fruit, incroyablement. Revenons à Ludovic Beyer. Je l'ai découvert grâce à Angelo de Bar. Angelo de Bar est un musicien tout à fait particulier dans la galaxie du swing gitan. Quelqu'un qui a su, dans ce monde pourtant marqué si profondément par l'empreinte de Django Reinhardt, su trouver une tonalité, une sonorité, un caractère très personnel, très marquant, tant dans le jeu que dans le répertoire et la présence. Du temps où se tenait à Paris un salon de la musique chaque année, je m'y rendais. Et celles et ceux qui firent de même n'ont pas oublié l'incroyable boucan, ce vacarme venu d'un autre monde qui vous sautait à la figure en entrant. C'était au-delà des limites du supportable. Mais nous entrions tout de même pour voir les nouveautés, les trouvailles, les progrès, l'évolution. J'ai d'ailleurs beaucoup d'anecdotes surprenantes de cette époque et du Salon de la musique qui pourraient presque faire l'objet d'une émission spéciale. L'une des dernières années, je rentrais donc dans le hall, noyé de bruit, comme d'habitude, et j'avançais dans les allées. D'emblée, quelque chose m'intriguait. Comme une présence, un frôlement, sonore ou pas, je n'aurais pas su vous dire, tant il y avait de bruit. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose d'intrigant était présent et très actif dans l'air. Et cela finit par m'accaparer l'esprit à un point tel qu'il me fallait absolument trouver ce que c'était avant de pouvoir visiter le salon. J'ai donc pris toutes les allées, une par une et dans les deux sens, patiemment et à l'affût du moindre indice. Puis j'ai fini par avoir parcouru les allées entières du salon, dans le vacarme, quand tout au bout du hall immense, à la fin de la dernière allée, je tombais sur la clé de l'énigme, la réponse à ma question, et elle me stupéfia. Angelo de Bar était seul, assis au pied d'un pylône et jouait de la guitare, seul, paisiblement, avec douceur, sans rien forcer, mais avec une profondeur, une intériorité, une personnalité sonore que j'ai connue à très peu de musiciens. Alors je suis resté discrètement, à quelques mètres de lui, pour l'écouter sans le déranger, l'écouter et le voir. Et cela a été la leçon d'un maître. C'était bien lui et rien ni personne d'autre que j'avais perçu dès l'entrée. J'étais littéralement soufflé d'avoir fait pour moi-même la constatation et la preuve que la musique est d'abord et avant tout un fil sensible, fil tendu d'un humain à tous les autres. C'est vivre en soi et transmettre l'immatérialité, la présence, le vrai. Le bruit est un leurre, une inertie. Le bruit est un mur et la vie est au-delà. J'ai conçu depuis ce jour une admiration totale pour Angelo de Bar. Et lorsque je vis un jour un CD de lui intitulé « Entre ciel et terre », tout naturellement, je l'ai ramené à la maison. Il était en fait un duo entre Angelo de Bar et Ludovic Beyer, dont je n'avais encore jamais entendu parler, mais la caution du maestro me suffisait. Qu'aurait donc pu bien choisir Angelo de Bar et qui n'aurait pas été une bonne chose? Il y avait là une vraie connivence entre les deux, deux sonorités très distinctes, mais concourant à une musique pleine, maîtrisée et sans retenue. Alors arrêtons-nous un instant sur ce duo et écoutons-le. Nous reviendrons ensuite plus spécifiquement sur Ludovic Beyer, Angelo de Bar et Ludovic Beyer.
Thank you.
le nombre des diverses collaborations ou rencontres de Ludovic Beyer est assez impressionnant, de par leur qualité d'abord et par leur diversité. Ainsi le retrouve-t-on ces jours-ci au nombre des fines lames que Guy Marchand a recrutées pour son dernier CD en date, Né à Belleville. Guy Marchand dont le flair ne saurait être pris en défaut. L'œil aux aguets, l'oreille en embuscade, rien de ce qui chante ou frissonne ne saurait lui échapper. Comme tous les crooners, il est un musicien complet, sachant parfaitement où il veut en venir musicalement et possédant cet art délicat de l'alliage parfait. Comme ce sera le cas de nombre de ses confrères accordéonistes, la zone musicale couverte par Ludovic Beyer s'étendra de la romance populaire à la rigueur classique et à la pleine liberté du jazz. C'est la grandeur spécifique de l'accordéon et de celles et ceux qu'il pratique que de ne s'être jamais endormi sur l'ostracisme qui a frappé l'instrument et qui les a frappés. Toujours ils ont cherché la lumière du jour, cette petite lueur entreaperçue et qui leur disait qu'il y avait peut-être un passage. C'est cette façon à la fois pudique et ferme de croire en soi, toujours, et croire qu'il y a quelque part une porte qui s'ouvrira, qui a construit pierre à pierre la position actuelle de l'instrument, qui n'est pas celle du miraculé qui reparaît ou du fils prodigue, mais celle du virtuose dont on attend le plus haut. Les accordéonistes d'aujourd'hui présentent donc parfois de très très grandes diversités de caractères, de styles et de jeux. De cette disponibilité de l'instrument, Ludovic Beyer a fait son écriture. Et Beyer, avant tout, écrit de la musique. Et je suis persuadé que sa musique trouverait tout à fait sa place sur un piano, une guitare ou tout autre instrument. C'est la musique elle-même qui se trouve au centre de l'édifice. Lorsque j'ai écouté son CD pour la première fois, j'ai été très surpris à la fin de réaliser que j'avais totalement occulté l'accordéon pour ne me focaliser que sur la musique proprement dite. Sans doute est-ce là un bon signe, en tout cas, le signe d'une écriture pleine, entièrement assumée et conduite. Ludovic Beyer est un compositeur de son temps, sans le moindre doute, mais un contemporain ensoleillé. Et n'excluant pas de pouvoir être compris immédiatement. Nos grands accordéonistes actuels, Galliano en tête, sont majoritairement gens du Sud, qui ont reçu frontalement le choc Piazzolla. Le choc, mais aussi l'illumination. Piazzolla pouvait être très sombre, désespéré même. Il l'était souvent, mais il n'excluait jamais le soleil, fût-ce une brûlure ou un écrasement. Cela a donné une lumière particulière, un accent à la façon qu'ont les accordéonistes de dire le mot « aujourd'hui ». Même la si rigoureuse Fanny Vicens ne peut dissuader le soleil totalement. L'accordéon a cette qualité de faire vivre au jour l'harmonie contemporaine, de la rendre instantanément lisible et de nous en faire ressentir un impact physique direct et que nous pouvons décrypter. Dans les premières années où j'écoutais et apprenais à aimer ce que l'on appelait alors la musique contemporaine, j'étais très frappé de la sécheresse de l'écriture chez certains compositeurs, comme Berriot, que j'ai pu aborder par les quelques guitaristes qui l'ont joué. Berriot, dont j'ai patiemment appris à aimer et admirer l'œuvre, bien sûr. De plus, et je ne chercherai pas à m'en cacher, j'ai difficilement compris toujours qu'un musicien puisse professer et discourir infiniment. Vous savez, cette façon qu'ont certains de jouer pendant 1 minute 30 et d'en parler durant 4 heures. Tout cela me paraissait manquer de volupté. Cette sensation d'être devant une forteresse de Vauban et de chercher l'arrondi, la volute, une trace même infime du plaisir. Voyez-vous, même si Vauban était indéniablement un grand homme, et cela pour de multiples raisons, il m'a toujours peiné par son insistance à refuser la courbe. Comme tout individu sensé vers l'âge de 25-30 ans, j'ai dit adieu à certaines choses que j'avais aimées. Non par abandon, mais parce que se profilaient d'autres montagnes à escalader, d'autres chemins à prendre. Debussy, Ravel, Satie, Roussel, Jean Alain, Vidor, Duruflet et Messiaen avaient fait leur œuvre, laissé leur marque en moi. Il me fallait regarder le présent et lui donner audience, que ce soit sur une terrasse au clair de lune ou ailleurs. Sont entrés alors tous ces jeunes gens et jeunes filles qui ont littéralement mis la maison sans dessus-dessous. Équipés qui me ravissaient, même si j'avais le sentiment parfois que manquait à tout cela une sorte de mode d'emploi, je dirais. L'instrument qui a été la clé de mon accession à ces musiques fut la guitare. Non parce qu'elle était mon instrument et que par cela j'y recevais mieux la musique, mais parce que le contemporain en guitare est venu d'Amérique du Sud. Astor Piazzolla, bien sûr, mais aussi et surtout Leo Brouwer, dont je vous parlerai très bientôt. Et il y avait par-dessus tout cela l'ombre encore d'Heitor Villa-Lobos. Eh bien, l'accordéon me paraît doué des mêmes qualités que les guitares, savoir rendre sensible et infiniment présente l'écriture la plus complexe, la plus aventureuse, celle qui serait la plus à même de nous échapper. Ludovic Beyer a une densité d'écriture par endroits assez saisissante, mais jamais il ne pousse les choses vers l'abscon, l'hermétique ou le provoquant. Tout chante et se déploie dans la plénitude, dans la sensualité, et ce qu'il faut bien appeler du nom qui lui revient, la beauté. Beauté dont Ludovic Beyer semble entretenir un souci constant, ainsi que celui de la lisibilité de sa musique. Ludovic Beyer nous prend par le bras pour nous conduire là où il veut, mais il ne nous lâche jamais le bras. Sa musique nous maintient donc dans une sorte de sécurité sensible, base partant de laquelle nous savons pouvoir laisser notre esprit et notre cœur aller à leur guise, librement. Et c'est par cela que la musique de Ludovic Beyer montre son absolue modernité, faute d'un meilleur terme, en construisant le socle nécessaire à une totale disponibilité de l'esprit. Il ne faut pas faire l'erreur avec Ludovic Beyer de penser que son écriture est tempérée, consensuelle, car ça n'est tout simplement pas le cas. Il est plein de feu et de superbe. Il déboule et nous fulgure en pleine tronche tout l'air que contient son accordéon. Simplement, il le fait avec conscience du public, conscience d'être écouté, et peut-être même écouté pour la première fois par des gens qui seront peut-être en demande de comprendre la musique d'aujourd'hui. Et pour cela, quel meilleur avocat que toute l'immense connaissance du jazz qui est la sienne, le jazz qui infuse toute son universalité et sa chaleur à la musique de Ludovic Beyer. Thank you. Rythme, pulsation et un certain entendement de l'harmonie et certaines façons de faire vivre la mélodie en la fondant à la fois au rythme et à l'harmonie. Le piano jazz, plus particulièrement un grand maître, dans l'art de fondre ces trois données élémentaires de la musique, rythme, harmonie, mélodie, en une seule. Je pourrais citer Fats Waller, Art Tatum, Earl Hines, Oscar Peterson, bien d'autres. La seconde moitié du XXe siècle verra cette école de pianistes évoluer vers des formes plus prononcées encore, de fusion, de moyens et de styles, le piano accusant alors plus de tempérament encore, d'intériorité, pour muer vers des univers tels que ceux de Bill Evans, de Martial Solal ou de Keith Jarrett. Ludovic Beyer procéderait donc plutôt d'un héritage direct de cette seconde période du piano jazz. En cela, il paraît être proche de musiciens tels que Brad Mehldau ou Dan Töpfer. Mais par rapport à l'histoire propre de l'accordéon, Ludovic Beyer a cette particularité d'avoir dans son jeu gardé mémoire, et une mémoire fraîche, vive, joyeuse, des ensorcellements, des sortilèges de l'accordéon, de toujours, serait-on tenté de dire. Il y a dans le déploiement d'une mélodie, dans un accord suggéré, et dans un coup de rein de rythme, il y a rappel des maîtres anciens, ceux de la génération de Marcel Azola, l'accordéon de Brel, de Gréco, de Catherine Sauvage, celui de la chanson. Il met un esprit infiniment harmonieux à ce qui serait une douce confusion des genres, d'époque et de style. Il ne parie pas sur un héritage du passé, mais en le fait que ce passé vive toujours en nous, et qu'à ce titre, son souffle influe toujours sur les écritures d'aujourd'hui. Ce dont je vous parle ici, c'est presque d'une sorte de magie dans l'évocation furtive, ce que l'on nommait à une époque les arts divinatoires. Il y a des moments furtifs dans ce CD où l'on croit voir repasser les visages de Gréco, de Catherine Sauvage, de Nougaro, où l'on croirait entendre leur voix, brièvement. Ce CD me paraît marqué de l'esprit de la chanson. C'est à la fois très fort, très présent, mais également cela va à la vitesse de la lumière. C'est comme un éclair très bref et très doux, tellement qu'on pourrait presque ne pas le remarquer. Il y a un moment de cette nature dans le CD « Toutou » de Miles Davis, qui est l'un de ses tout derniers. Au détour du morceau « Toutou », très calibré rythmiquement et aux harmonies très contemporaines, il y a une poignée de secondes où reparaissent et se font entendre Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, toutes les voix de la New Orleans. C'est très court, quelques secondes, et je crois que la majorité du public n'a pas physiquement le temps de réaliser ce qui se produit alors, et l'impact bien réel de cette poignée de secondes sur la musique. C'est le fond culturel de l'accordéon que Ludovic Beyer évoque pour nous par petites touches, par quelques nuances. Et par cet aspect de son jeu, Ludovic Beyer montre qu'il n'est pas musicien de la rupture, mais du prolongement. La nouveauté en musique viendra toujours en conséquence. Elle est articulée à ce qui la précède. Tout comme la musique naît du silence, la nouveauté est un fruit de tout le savoir recueilli. Elle intervient en conclusion de ce qui fait somme du savoir. Le stade du savoir. Alors oui, il est primordial pour nous de vivre dans l'instant, dans aujourd'hui, et d'avoir le souci de connaître et d'être témoin de la musique que rend notre époque. Mais qui se soucie uniquement de nouveautés, se soucie d'une vétille. Ludovic Beyer vit à plein dans son temps, dans son âge. Il est d'aujourd'hui même, devrait-on dire, tout dans sa musique dit notre temps. Mais il fait cela avec autant de bonheur que de conscience, et sa musique nous rend curieux de demain, de ce qu'il va devenir, des directions qu'il prendra. Et ce CD est une telle réussite et un tel bonheur que, bien évidemment, on souhaiterait qu'il puisse mener à bout cette expérience du solo, la poursuivre, en extraire tout ce suc prodigieux que l'on devine et qui affleure à chaque seconde de ce CD. Mais Ludovic vivra et Beyer verra. Et je suis bien certain que ce garçon-là a encore dans le fond de ses poches de quoi nous surprendre.
Thank you.
Que la réalité de se retrouver seul à l'instant où les micros s'ouvrent, le soliste enregistrant est peut-être aussi et avant tout une providence de pédagogie pour la musique elle-même. C'est, je pense, à travers l'expression soliste que l'on appréhende le mieux la rhétorique d'un instrument et le type de musicalité dans lequel il trouvera sa plénitude. On apprend ses intonations, ses articulations, les plus innées, les plus familières, et par là, par où commencerait le risque pour lui, là où se tiendraient ses zones d'incertitude. Un instrument de musique, c'est comme une galaxie, un tout fait de plusieurs constellations, de territoires et de phénomènes isolés dont les constituants exacts ne nous sont pas entièrement et pas parfaitement connus. Et l'orchestre est une projection au centuple de ses cosmogonies, de ses particularismes, de ses traits uniques parfois. Je ne sais pas qui au monde peut penser avoir résolu le mystère orchestre, l'orchestre tel que nous le connaissons, tel que nous pensons en maîtriser le savoir, me paraît toujours être un navire sans gouvernail. Dans un orchestre, je repérerai assez vite sur quel rang de pupitre m'appuyer pour avoir un accès le plus fiable et le plus immédiat à la musique jouée. Ce pourra être les bois, les cordes, les percussions ou un instrument intervenant sporadiquement et dont une phrase fera un lien, un liant idéal à structurer entre elles des phrases, des éléments dissociés. Alors ce symphonique, ce philharmonique qui nous emporte, qui nous rend extatiques ou bien nous entraîne dans ces somptueuses obscurités, nous ne le connaissons en fait qu'à peine. Nous savons lui garder une surface cohérente et acceptable, mais le mystère de ces tempêtes, de ces recueillements, de ces extases, repose encore dans le secret des entrailles de la musique. Je me souviens encore avec émotion avoir dévoré des yeux Pierre Boulez, dirigeant Stravinsky, à main nue, sans baguette, et avec quelle humilité dans le geste. Oui, je sais, l'humilité n'est pas forcément le mot qu'on accole au nom de Pierre Boulez. Et pourtant, Boulez, lorsqu'il dirigeait, se savait aux ordres de Stravinsky, lequel Stravinsky était aux ordres de la musique. Nous sommes présents au sein de la musique, mais d'une présence pleine parfois, différée ailleurs. Mais toujours, nous serons des servants de musique. Notre place est comme écrite. Elle exige tout autant une implication totale et un sens aigu de notre propre retrait, de notre mise à l'écart, des conditions de notre présence et de notre action. Sans le solo, je crois que jamais je n'aurais compris la beauté de l'accordéon et la base de toutes ses possibilités, comprise à quel point il peut être orchestral, ou tout au contraire, chanter jusqu'au dénuement, chanter sur la corde et vous briser le cœur. Un changement s'est opéré dans ma jeunesse lorsque j'ai eu la chance de passer un peu de temps en compagnie d'un musicien qui s'appelait Christian Holler, qui habitait Lyon. J'aimais tout simplement être avec lui. jouer, passer un moment, l'écouter. Il était excellent guitariste, ce dont peu de gens se souviennent aujourd'hui. Il était un super violoniste traditionnel et commençait à montrer quelques signes d'une addiction sérieuse à l'accordéon diatonique. Et lorsqu'il jouait de l'accordéon face à vous, c'était comme une chanson remontée du tréfonds d'un puits de la mémoire. Il ne reliait pas le passé au présent, non, mais il chantait un présent immémoriel, dont l'étendue et l'effet étaient drastiquement plus grands qu'on ne le suspectait. Il laissait sa part au sensible et à l'imaginaire. Simplement, lorsqu'il jouait et que vous étiez près de lui, vous ne pouviez faire autrement qu'être touché intimement par sa voix de musicien. Et tout, chez lui, reposait sur une simplicité voulue, sur un dépouillement magistral. Je ne sais trop ce qu'il devient aujourd'hui. Je sais seulement que sans lui, jamais je n'aurais compris et aimé l'accordéon. Alors jouer en solo, ça n'a rien d'une manifestation d'orgueil, de la mauvaise part de l'orgueil. C'est même tout l'inverse. Il ne s'agit que d'un choix de parole, ou plutôt de chant, de condition du chant. Et elle n'est pas la plus facile, ni la moins risquée que saurait choisir un musicien. Mais en musique, et en musique seulement, je vous prie, le sentiment du danger est infime par rapport à l'excitation ressentie, à la promesse, à l'éventualité de pouvoir, serait-ce au risque de perdre tout, faire un pas décisif pour soi, se dépasser, et ce faisant, ouvrir et éclairer une voie nouvelle pour les autres. En musique, c'est la musique elle-même qui est infinie et généreuse. Et confondre les vertus propres de la musique aux siennes, c'est là que se tient le mauvais orgueil. Ce « Made in Black » de Ludovic Beyer est un solo amoureux, une déclaration comme la musique n'en reçoit pas si souvent. On entend trop, et depuis trop longtemps maintenant, de reproches faits à notre temps. Mais cette époque n'a pas inventé l'égoïsme, elle n'a pas inventé le mensonge, elle n'a pas inventé la fatuité, la bêtise, l'acharnement à sa perte. Tout cela existe depuis le premier instant de la vie sur Terre. Et oui, cette époque est capable de beau, ô combien. Et j'aimerais voir plus de gens en prendre note et en convenir enfin. En publiant son CD, Ludovic Beyer a rendu notre ciel plus beau, plus grand encore et plus ouvert. Quelle chance nous avons de vivre aujourd'hui. Au revoir.
Thank you.